Vincent Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion. Bonjour, bonsoir. C'est l'histoire d'une famille sur 5 générations, de l'arrière-grand-mère de la narratrice Sarah jusqu'à la fille de celle-ci. Une histoire d'hérédité, du poids de l'hérédité, de paternité et surtout de maternité donc, mais aussi une histoire de transmission, voire de malédiction. Une histoire de folie ou en tout cas de psychopathologie. L'auteur est d'ailleurs elle-même psychologue et psychanalyste. Une histoire d'amour, d'amour fou aussi, de double vie, de trahison, de reconstruction et de destruction, voire d'autodestruction. Une histoire de fractures et de fissures personnelles, mais ancrée dans la grande histoire, celle des camps nazis, de la fraîche indépendance de la Côte d'Ivoire, du terrorisme, de la crise des réfugiés ou encore du changement climatique. Un roman implacable, tissé par les mots, traversé par la musique, hanté par des images, qu'il s'agisse des images des personnages, mais aussi de peintures, de photos ou de cinéma. Les Enténébrés de Sarah Chiche est paru aux éditions du Seuil, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous aviez besoin d'écrire ce livre ?
Oh, je crois que de toute façon, j'écris par nécessité. Je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas si j'en avais besoin, mais ça ne pouvait pas être autrement que cela.
Quand avez-vous décidé de vous lancer dans cette entreprise ?
Quand j'avais 9 ans. C'est peut-être une première réponse que je pourrais vous faire. J'ai, à partir du moment où j'ai commencé à savoir lire, j'ai voulu devenir écrivain un jour. Et c'est une sorte de promesse que je m'étais faite et que j'avais faite aussi au fantôme de mon père. Et j'ai grandi avec cela, en quelque sorte.
Vous parlez d'ores et déjà de fantôme, alors que le roman s'appelle Les Enténébrés. Alors, à chaque instant du livre, quasiment à chaque chapitre, je suis allé revoir la couverture du livre pour bien vérifier. Et effectivement, je confirme, le mot roman est bel et bien écrit hein, sur la couverture. Ça veut dire, Sarah Chiche, que votre vie à vous, la vie de votre famille, est une vie romanesque ?
Je pense que parler d'autofiction en ce qui concerne ce texte serait tout à fait inopérant et inadéquat dans la mesure où l'autofiction suppose d'avoir un jeu ou un moi qui est au centre. Or, j'ai pas de moi. Je suis pas au centre de ce texte. Je n'existe que d'écrire et au fond, il y a des personnages, il y a une Sarah, il y a des personnages, des climats, des paysages, des géographies, des époques, la Côte d'Ivoire dans les années 60, la Seconde Guerre mondiale en Autriche.
Tout s'entrecroise.
Tout s'entrecroise et quelque chose s'écrit. Effectivement, parfois, il y a un personnage qui porte mon nom pour qui je n'ai pas vraiment beaucoup de sympathie, mais qui est là et donc je l'écris et je le peins aussi. Mais exactement au même titre que les autres, sur le même plan que tous les autres personnages de cette fresque.
Mais si ce personnage s'appelle Sarah, ce n'est pas anodin.
Écoutez, il se trouve qu'elle s'appelle comme ça. Il y a une exigence de justesse et il me semblait que ça tombait juste sur le plan de l'écriture qu'elle s'appelle ainsi.
Alors, on n'est pas du tout dans un récit chronologique, pas du tout dans un récit linéaire, hein, mais le point de départ est très contemporain. Hein, c'est une naissance, en fait, la naissance d'une histoire d'amour entre cette Sarah et un personnage qui s'appelle Richard, Richard K. Il n'y a que la première lettre hein, de son patronyme. Ça se passe en Autriche, à Vienne. Richard, ce n'est pas n'importe qui, c'est un musicien, un virtuose du violoncelle. Il est connu dans le monde entier, mais au départ, Sarah ne le reconnaît pas. Ils vont boire un café au musée d'art ancien de Vienne. Et qu'est-ce qui se passe, Sarah Chiche ? Décrivez-nous l'alchimie qui s'opère entre ces deux êtres humains.
Mais on dit que l'amour est un scandale qui n'a ni sexe ni âge. Et il est vrai que ces deux personnes, en dépit de leur différence d'âge sur le plan biographique, vont se reconnaître comme étant chacun le double de l'autre, le miroir de l'autre. Elle qui n'a pas d'image, qui ne se sent pas exister dans son corps, dans son être, trouve en cet homme un reflet. Peut-être son seul reflet, celui qu'elle n'a jamais pu avoir. Et ils sont hantés tous les deux. Lui, Richard, est au sommet de sa carrière, n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Et donc, il est justement dans une dépossession de son existence liée à cette attitude de surplomb, à sa reconnaissance, à sa célébrité internationale. Ce qui peut provoquer un grand dégoût de la vie, paradoxalement. Hein. On pense souvent que les gens très célèbres, voilà, ils ont tout pour eux. Mais non, et puis lui, il est hanté aussi par ce qui s'est passé dans son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'Autriche qui, contrairement à l'Allemagne, n'a jamais vraiment fait son mea culpa et n'a jamais vraiment été dénazifié. Et au fond, il y a quelque chose un petit peu de la rencontre. Bon, L'homme sans qualité de Musil est un livre qui m'a profondément marqué. Et il y a chez ces deux personnages, Richard et Sarah, quelque chose d'une union mystique. C'est-à-dire que tomber en amour, c'est littéralement s'ouvrir et se remettre entièrement à l'autre, se déprendre de ce qu'on est, se baisser les armes, parce qu'au fond, voilà, seul compte l'entière disponibilité à l'autre. Alors, disponibilité ne veut pas dire être dominé par l'autre, pas du tout. Ils sont tout à fait, Richard et Sarah, dans un compagnonnage intellectuel et érotique tout à fait égalitaire.
Nous sommes page 65 de votre roman.
Je vous connais, vous venez de toujours. Nous ne devons pas nous revoir, jamais. J'ai couturé mon cœur. J'ai demandé chaque matin et chaque soir, en prière, que l'oubli de vous vienne. Je me suis enfouie dans les bras de l'homme que j'aime, à qui j'ai voué ma vie, attendant de lui un geste, une parole, qui me guérirait de vous. J'ai travaillé à mieux m'occuper de mon enfant. J'ai accepté toutes les propositions d'articles ou de conférences qu'on me faisait, même quand je n'en avais pas le temps. Les jours, les semaines, les mois ont passé. Je ne suis pas parvenue à vous chasser de mon esprit. Ni l'amour pour mon compagnon, ni l'amour pour mon enfant, ni le travail, ni le sommeil ne m'ont délivré de vous. Chaque fois que je crois vous fuir, je vous retrouve épouvantée au centre de mon cœur. Vous me manquez jusqu'à la dévastation. Au point que j'en perds la parole, j'en deviens insaisissable à moi-même et aux autres. La journée, je vois votre visage flotter devant moi et vos lèvres me sourire. La nuit, quand tout le monde dort, je vais me cacher dans la cuisine pour pleurer et entrer dans votre absence jusqu'à me pénétrer de vous. Après notre rencontre à Vienne, j'ai déchiré votre carte de visite. Il m'a fallu demander à un ami journaliste de m'aider à trouver votre adresse e-mail. J'ai prétexté un reportage. Vous aimer, c'est commencer à mentir. Et pourtant je hais le mensonge, je le hais. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai construit toute ma vie contre ça. Devant tous, j'étouffe donc la joie que votre existence me cause, comme le dégoût de n'avoir pas le cœur aussi noble que je l'aurais souhaité. Mais la joie l'emportant sur le désespoir, et ne voulant renoncer à rien, j'accepte de tout endurer en silence. Mes amis comme ma famille ignorent tout ce qui m'agite en secret. Je n'ai pas de goût pour les confidences que l'on fait à un tiers pour s'enorgueillir avec des trémolos dans la voix de ces bouleversements hormonaux. L'amour, dès qu'il cherche à se raconter, devient une farce dite par un aveugle et un sourd. Le couinement obscène d'animaux humains qui n'ont pas même la simplicité des bêtes pour se renifler le derrière sans en faire toute une histoire quand ils sont contents de se rencontrer.
Et cette rencontre va très vite virer en amour fou, hein, même s'ils sont déjà tous deux en couple, Richard et Sarah. Chacun va mener une sorte de double vie, je dis bien une sorte de double vie, parce que votre personnage, Sarah Chiche, rejette l'expression de double vie. Pour quelle raison ?
Oui, parce que la dimension de double vie, au fond, c'est quelque chose de très bourgeois. C'est un topos de bien des romans du 19e siècle, c'est-à-dire d'un côté le mari que l'on garde par convenance, mais avec qui on s'ennuie un petit peu, voyez Madame Bovary par exemple, et de l'autre l'amant ou les amants qui vont allumer chez le personnage féminin la torche passionnelle. Hein. Chez Balzac aussi, on retrouve bien des histoires de ce genre. Or là, pour Sarah comme pour Richard, il s'agit plutôt de mener deux vies, c'est-à-dire que ils aiment tout de même, Richard aime sa femme et Sarah aime profondément son compagnon avec qui elle a une fille.
Qui s'appelle Paul.
Oui, Paul.
Mais elle l'aime profondément, mais c'est une relation un petit peu fêlée, un petit peu altérée, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a blessé Sarah.
Alors...
On va
pas tout révéler, mais
il y a un petit malaise quand même.
Ça m'a pas malaise dans la civilisation.
Non.
J'aime beaucoup Ingmar Bergman et Scène de la vie conjugale a été un film tout à fait fondateur pour moi. C'est un film dans lequel un couple passe son temps à s'entre-déchirer. Ils se disent des choses tout à fait terribles et on retrouve en effet quelque chose de cet ordre-là chez Paul et chez Sarah. Et on comprend seulement dans la quatrième partie du roman, ce qui a peut-être conduit Sarah à l'infidélité. Souvent, au départ d'une infidélité, il y a une blessure antérieure, une humiliation qui n'a pas été dite, qui n'a pas été parlée. Et c'est cela que je voulais montrer dans Les Enténébrés, en racontant les racines de cette humiliation dans ce couple formé par Paul et par Sarah, mais qu'on le découvre seulement plutôt dans la dernière partie du livre.
Alors, par contre, ce qu'on découvre assez vite, c'est que Paul et Sarah ont déjà vu ce Richard. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu jouer lors d'un spectacle à Paris, d'un concert que Richard a donné et dans des circonstances mais extrêmement particulières pour Sarah. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est-à-dire que au fond, la rencontre amoureuse, quand on rencontre quelqu'un... Il y a l'idée qu'au fond, on le reconnaît, on l'a déjà vu. Mais là, le sentiment de déjà vu est tout à fait réel, puisque quand Sarah rencontre Richard en 2015, elle se rend compte, parce qu'il le lui dit, il lui dit « je suis Richard K ». Et là, elle se rend compte que 7 ans plus tôt, elle a assisté à un concert dans lequel il a notamment interprété le concerto en la mineure de Schumann. Et c'était dans un moment de détresse... Très fort, très dur, puisque Sarah venait de perdre un enfant. Elle était enceinte, elle a fait une fausse couche, comme ça peut arriver à beaucoup de femmes, hein, la fausse couche au premier trimestre de grossesse. Et donc c'est dans cette perte, c'est à la suite de cette perte d'un enfant, cette perte qui la hante parce qu'elle se sent tel un déchet qui ne peut produire que des déchets, et ça fait écho à toute l'histoire de sa famille depuis des générations, qu'elle va avec Paul, son compagnon, assister à un concert où se trouve Richard.
Cette émission est une rediffusion. Un un extrait du troisième mouvement du concerto pour violoncelle en la mineur, opus 129 de Schumann, interprété ici par le violoncelliste Mstislav Rostropovitch avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Benjamin Britten. Et ce morceau-là, Sarah Chiche, vous ne l'avez pas choisi au hasard. Pourquoi celui-ci et pas un autre ?
Ah, parce que c'est un morceau très très particulier dans la vie de Schumann. Quand il l'écrit, il est en proie, quand il le compose, il est en proie à une folie dévastatrice et absolument furieuse. La note là lui scie le crâne en permanence, hein, c'est ce qu'on appelle des hallucinations auditives. Il voit des anges et le diable lui tourner autour en permanence. C'est dans un état de dévastation extrême qu'il va tout de même composer ce concerto et puis ensuite en corriger les épreuves en ne dormant plus, en ne s'alimentant plus pendant 6 jours d'affilée. Il va le faire porter à son éditeur et puis immédiatement après l'avoir porté, il va se jeter dans l'eau.
Schumann était un enténébré ?
Il était un enténébré, oui. En fait, enténébré, c'est un mot, un terme que j'ai emprunté à Elfriede Jelinek, l'auteur autrichienne, dans La Pianiste, où à un moment donné, elle dit « Mon père est mort à l'asile de Steinhoff, tout enténébré ». Steinhoff qu'on retrouve dans le roman. Mais Schumann, effectivement, était un autre enténébré, dévasté par la pensée de la mort en permanence. Et ce morceau que Sarah entend, la toute première fois qu'elle voit Richard, lui révèle que cet homme, ce Richard, est son frère d'âme, puisque elle sait pertinemment qu'on peut, comme Schumann l'a fait, se jeter d'un pont en étant toute joyeuse.
Alors le livre est parsemé de références de musique classique. D'ailleurs, Charles et Cécile, qui sont les arrière-grands-parents de Sarah, étaient eux aussi musiciens. On va pas trop parler d'eux, oui. Puisque c'est vraiment la dernière partie du roman qu'on les découvre. Mais puisqu'on évoque la musique, Sarah Chiche, est-ce que écrire ce roman, c'était comme écrire une partition?
Absolument, absolument. C'était comme écrire une partition en le composant de façon à ce que chaque partie corresponde à un mouvement musical dans une symphonie. Et donc chaque partie du livre a une identité propre, une écriture qui lui est propre. On passe, voilà, dans la première partie, la France et l'Autriche de nos jours. La seconde partie, la deuxième partie, c'est tout autre chose, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au moment de l'Afrique des indépendances, c'est dans les années 60. La troisième partie, on va en 1900. La quatrième partie, on retourne de nos jours dans une ambiance, je dirais, apocalyptique, hein, hantée par la conscience des temps de la fin avec le réchauffement climatique, catastrophe historique et catastrophe intime se répondant. Et donc, chaque partie a une identité qui lui est absolument propre.
Avec des longueurs différentes, avec des registres d'écriture différentes, puisque vous utilisez le récit, le dialogue, il y a des descriptions parfois très longues, il y a des échanges épistolaires, vous utilisez aussi la ressource du journal intime, et c'est intéressant que vous parliez de voix, parce que j'allais précisément en venir là, parce que ces voix-là, elles ne se succèdent pas, parfois elles se superposent, parfois elles se confondent, y compris d'ailleurs les voix de vos personnages, à tel point d'ailleurs que le lecteur parfois se demande au détour d'une phrase, au détour d'un paragraphe, qui est en train de parler, qui est en train de raconter, si c'est la fille, si c'est la mère ou si c'est la belle-mère. Pourquoi avez-vous souhaité, parce que c'est évidemment une volonté très claire, introduire cette confusion jusque dans votre écriture ?
Bien, je voulais faire entendre à quel point nous pouvons être hantés, contaminés par la parole de nos morts, ou par la parole des gens toujours vivants, mais qui, même que nous, si nous ne les voyons pas, ils parlent toujours en nous. Ils nous parlent d'une certaine façon. Et comment tout cela peut se superposer ? Alors, il était hors de question pour moi de psychologiser et donc d'expliquer très clairement les causes sur le mode de c'est parce que ce personnage a été déporté politique à Buchenwald, que ensuite sa fille est tombée malade, puis qu'elle a taper sa propre fille, etc. Je voulais laisser au lecteur la possibilité lui-même d'associer.
Et donc de reconstituer le puzzle.
Et donc de reconstituer le puzzle. Avec cette idée qu'au fond, chacun d'entre nous est un grand orchestre et qu'il n'y a pas qu'une seule voix qui parle en nous.
Alors jamais de guillemets, hein, peu de tirés, peu aussi de renvois à la ligne dans les dialogues, tout ça participe hein, évidemment justement de cette confusion chorale, hein, si j'ose dire, Sarah Chiche. qui répond aussi à la confusion mentale des personnages. Et ça aussi, c'est l'un des fils directeurs de votre récit. La première chose d'ailleurs que se demande sa mère quand elle met au monde Sarah, c'est « Est-ce que ma fille est normale ?»
Oui, c'est là une question... que se pose toute mère hein, quand elle attend un enfant simplement.
Mais chez elle, ça
simplement
prend
chez
une,
Ève,
un poids.
Ça prend des proportions telles incroyable. Qu'elle décide résolument. Elle se dit si Sarah n'est pas normale à la naissance, je l'étouffe sous l'oreiller. Et des années plus tard, elle le racontera assez froidement à Sarah d'ailleurs. Et Sarah va se souvenir de ça dans un moment très particulier qui est la visite à l'hôpital psychiatrique de Steinhoff. Richard lui apprend qu'il va faire un concert dans un hôpital psychiatrique en mémoire d'enfants et d'adultes exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis parce qu'ils étaient justement anormaux ou jugés asociaux. Et là, à ce moment-là, Sarah va découvrir absolument épouvantée cette histoire qui est tout à fait véridique, tout à fait réel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a préfiguré les camps d'extermination, avec une rigueur bureaucratique qui n'a rien à voir avec une simple folie passagère. Des médecins dans les hôpitaux psychiatriques autrichiens ont délibérément exterminé ou laisser mourir des enfants et des adultes. Et l'hôpital de Steinhoff, il y a tout un récit dans la première partie des Enténébrés où Sarah visite une cave et bon, je pense qu'il faut dire les choses simplement, ça c'est j'ai visité cette cave dans laquelle pendant 60 ans des cerveaux d'enfants, de 800 enfants exterminés par les nazis ont été conservés. Voilà, c'est-à-dire qu'au-dessus, si vous voulez, l'enfer au fond, c'est pas un fleuve bouillant et rouge rempli de monstres. Hein. L'enfer, ça peut être une cave vide, semblable à n'importe quelle autre cave vide, mais dans laquelle pendant 60 ans, des cerveaux d'enfants, 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, ont été conservés. Et celui qui était à la tête de tout cela, le docteur Heinrich Gross, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas du tout été inquiété. Il a fait une très belle carrière en psychiatrie, non seulement avec la complicité du gouvernement autrichien, mais il a même publié des articles scientifiques dans tout un tas de revues internationales. Et ce type se targuait d'avoir la plus grosse collection de cerveaux du monde. Et donc, quand Sarah visite cela, bien évidemment, cette cave et ce mémorial de Steinhoff, ça fait écho à son histoire personnelle, hantée par une malédiction familiale qui se transmet entre les mères et les filles.
Alors ce mot malédiction, il revient à plusieurs reprises effectivement dans le roman, en particulier quand vous évoquez l'écrivain hongrois Imre Kertész, un prix Nobel de littérature 2002, et son livre Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de cousinage qu'on peut faire entre les deux livres, parce que on comprend que le poids de certains événements peut empêcher certaines personnes, et peut-être même nous tous d'ailleurs, de transmettre et peut-être même de donner la vie et donc de construire l'avenir en quelque sorte.
C'est intéressant ce que vous dites parce que j'associe avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Kertész, dans Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, dit que du fait de ce qu'il a connu, à savoir la déportation, puis ensuite le stalinisme, il lui semble tout à fait impossible dans un monde tel, dans un monde si dévasté par la haine, de transmettre la vie.
Inconcevable dans tous les
c'est
sens du
inconcevable.
Terme.
Inconcevable. Et aujourd'hui, sachez que, et c'est ce que Paul, le compagnon de Sarah, raconte dans la quatrième partie du livre, lui qui travaille sur le mal et la fin du monde, Paul raconte qu'aujourd'hui, il y a bien des individus, des jeunes gens, qui, par exemple au Japon, décide, après avoir vu les prévisions à long terme, les prévisions climatiques à long terme, décide très rationnellement de ne pas faire d'enfants pour que s'arrête quelque chose, pour ne pas donner vie dans un monde si dévasté.
Alors Kertész, qu'on évoquait à l'instant, sa judéité a joué évidemment énormément dans ce qu'il a vécu. Ce n'est pas le cas, contrairement à ce qu'on pourrait croire du grand-père de Sarah, qui s'appelait Pierre, lui qui a été justement déporté à Buchenwald et à Auschwitz. C'est pas en tant que juif qu'il a été déporté, mais en tant qu'opposant politique. Alors, je suis obligé de vous poser la question, Sarah Chiche, la question de la judéité. Oui. Elle est centrale ou accessoire pour vos personnages?
C'est une bien drôle de question. Disons qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se déconstruit autour de la judéité. Ève, la mère de Sarah, s'est toujours présentée. C'est une femme extrêmement courageuse qui a été extrêmement blessée par tout un tas d'abominations que l'on découvre au fur et à mesure du roman. Et donc, elle s'est toujours présentée comme juive parce que le signifiant, et elle disait que son père était déporté parce qu'il était juif. Parce que pour elle, le signifiant juif, c'était un équivalent du summum de ce qu'est être une victime. Et en fait, Sarah, au cours de son enquête, va s'apercevoir que le père d'Ève, donc son grand-père, Pierre B, n'était pas du tout juif, que s'il a été déporté à Buchenwald, puis à Schönebeck, fait. Voilà. Eh bien, c'est parce qu'il était, c'était un opposant politique. Donc, il a été déporté comme triangle rouge. La question du judaïsme et de la judéité n'en est pas du tout centrale dans ce livre. C'est la question du... Je pense que vraiment, on fait souvent de la Shoah, le summum de l'abomination. Oui, ça a été une abomination, mais regardez ce qui s'est passé au Rwanda, regardez ce qui s'est passé en Bosnie, regardez ce qui est en train de se passer au Mali. Je crois qu'il faut cesser de faire la compétition du plus grand charnier ou du plus grand. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aussi. Voilà, au bout d'un moment, tout se vaut, il n'y a pas d'échelle du mal au pire.
Cette émission est une rediffusion. Du chanteur ivoirien Amédée Pierre en 1960 dans VMDN sur RFI avec Sarah Chiche qui publie Les Enténébrés aux éditions du Seuil. Et gageons que Pierre, l'un de vos personnages, Sarah Chiche, donc cet ancien déporté, a sûrement entendu cet énorme tube des premières années de l'indépendance ivoirienne écrit par cet Abidjanais originaire de la commune de Trècheville. Et c'est en particulier dans ce quartier de Trècheville qu'il a commencé, votre personnage, qu'il a commencé, Pierre, une seconde vie.
Voilà, je voulais montrer avec l'histoire de Pierre qui ouvre la deuxième partie du livre comment au cours d'une vie un même individu peut être successivement un héros et un martyr puis se comporter ensuite de façon tout à fait médiocre.
Un salaud ?
Oui, on peut dire que c'était un salaud. Oui. Parce que donc il survit à la déportation. Il revient, mais en revient-on vraiment totalement ? Ça, c'est une question, évidemment. Et il revient se vivant comme déjà mort et en même temps dévoré par l'envie de vivre absolument. Il tente au début l'aventure conjugale, donc il se marie avec une femme, Lynn. Ensemble, ils ont une fille, Eve, et puis il va fuir. Pour une raison qu'on découvrira plus tard, il va se réinventer entièrement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vraiment, c'est la fuite d'un homme dans le pur dehors pour arriver dans un lieu où nul ne le connaît, où il n'a pas d'histoire. Et donc, il va se réinventer comme photographe dans l'Afrique, juste au moment, en Côte d'Ivoire, juste au moment de l'indépendance.
Est-ce qu'il est un expatrié ? On va dire classique, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais est-ce que son comportement par rapport justement à ces blancs dans l'immédiate indépendance ivoirienne est si singulier que celui-là, que ça ?
Hélas, je crois bien que non. C'est-à-dire que après la fin du colonialisme, bien des blancs ont continué à avoir des comportements de domination oui, tout à fait dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je crois qu'il a mené au fond, ce Pierre, la vie de bien des expatriés à cette époque. C'est-à-dire profitant de toutes les jouissances matériel et sexuel qui étaient à leur disposition et continuant à instrumentaliser les plus vulnérables.
Alors vous posez la question dans le roman Sarah Chiche, ce comportement-là, doit-on l'excuser en raison de ce qu'il a vécu ? Doit-on excuser l'excès, le crime ? D'une certaine façon aussi, puisqu'il peut aussi parfois s'agir d'un crime, parce que soi-même, on a été victime de quelque chose d'abominable.
Alors,
vous avez une réponse à cette question ?
J'ai pas de réponse. C'est à chaque lecteur de la trouver. Qui suis-je pour avoir une réponse ? Non, qu'est-ce qui fait qu'un type qui a été déporté et qui a vu certains de ses copains se faire trucider sous ses yeux, qu'est-ce qui fait qu'un type, des années après, va baiser des jeunes filles, des petites dioulas, en leur proposant des séances photos et en échange, en ayant des relations sexuelles avec elles. Est-ce qu'on peut excuser cet homme du fait qu'il a connu par le passé dans une autre ville abominable ? Je laisse la réponse à l'appréciation de chacun.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Sarah Chiche qui publie Les Enténébrés aux éditions du Seuil, un livre qui est aussi truffé de références cinématographiques. On évoquait la musique tout à l'heure, mais il y a aussi le cinéma. Vous avez travaillé d'ailleurs vous-même, Sarah Chiche, sur le cinéma de Michel Haneke. Vous avez publié un livre qui s'appelle Éthique du Mikado en 2015. Il y a aussi d'autres images, pas seulement des images de cinéma, il y a des tableaux, il y a des peintures, il y a aussi les photographies, et pas seulement celles du personnage de Pierre, mais les photographies jouent vraiment un rôle majeur dans la construction de votre récit et dans la construction à la fois personnelle, historique et amoureuse aussi de Sarah, on va dire le personnage principal du roman. Pourquoi est-ce que dans ce récit vous accordez autant de place à l'image ?
C'est comme ça que je pense et c'est comme ça que j'écris en image, et c'est comme ça que je suis traversée par
mais il y a l'image au sens métaphorique,
oui.
Mais il y a aussi les images au sens concret du terme, justement les photos, les plans
l'image,
du cinéma, les tableaux.
Oui, l'image, qu'elle soit photographique ou cinématographique, a toujours ou pictural, les tableaux, a toujours un rapport avec le deuil. Il y a l'instant fixé par l'image et l'instant d'après, tout est perdu. Et au fond, c'est l'idée d'inviter chacun à regarder ces tableaux et ces images. On rentre dans des tableaux dans le livre, c'est-à-dire que par exemple, quand Sarah rencontre Richard la seconde fois au musée, ils se rencontrent devant un tableau, et pas n'importe lequel, c'est Les Chasseurs dans la neige de Bruegel, qui est un tableau éclaté dans lequel se trouve une multitude de petits personnages, tous minuscules, microscopiques, et Sarah se prend d'ailleurs à rêver de fuguer à l'intérieur de ce tableau. Ça peut nous arriver parfois. Au fond, c'est ça aussi que je voulais montrer. Comment est-ce que parfois on a On a le désir de disparaître du monde ou de disparaître, de s'ensevelir dans un tableau, de s'ensevelir dans une image. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais l'importance de l'image dans ce texte participe aussi de la hantise. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme au fond ? C'est une image. Et à quoi sert cette image ? Elle sert à border un trou, hein, à ne pas se heurter frontalement au vide, parce que sinon, je crois que la vie est tout à fait insupportable.
Vous n'avez pas d'image, c'est ce que dit Sarah à Richard, vous en parliez d'ailleurs
c'est
vous-même.
C'est Richard qui dit ça à Sarah,
vous n'avez pas d'image. Ils n'ont pas d'image tous les deux,
oui.
Mais ils y sont aussi en miroir,
en permanence,
l'un l'autre. Et l'image, c'est donc aussi, à travers justement ce miroir, la question de l'identité que vous posez, de sa propre identité par rapport à soi-même et par rapport à sa famille.
Alors, quand Richard dit cela à Sarah, vous n'avez pas d'image, on est peut-être aussi, ça m'amusait de jouer avec les codes du film et de la littérature autour du vampirisme. On sait que les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs. Et il n'est pas sûr que les spectres s'y reflètent aussi. Donc c'était introduire déjà quelque chose de cet ordre-là entre ces deux personnages qui pourtant, même s'ils n'ont pas d'image, vont s'aimer éperdument. Il y a la question de l'identité aussi, bien sûr. La fiction du moi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on a vraiment une identité bien définie, bien normée ? En tout cas, pour ces personnages, il est sûr que comme ils passent d'un comportement à un autre, d'une attitude à une autre, chacun de ces personnages est plusieurs, au fond. Donc la question de l'identité paraît tout à coup tout à fait factice.
On en revient toujours à la dimension psychologique, évidemment, Sarah Chiche. Est-ce que votre métier de psychologue, de psychanalyste, nourrit votre écriture ? Ça me semble évident hein, quand on lit ce roman et en vous écoutant, mais est-ce que vous le faites en pleine conscience, ou bien est-ce que ça vient comme ça, au fil de la plume ?
Alors, je suis psychologue et psychanalyste par devoir, parce qu'il m'apparaît... m'est apparu important de pouvoir, à ma manière, aider quelques autres à pouvoir avoir une existence digne de ce nom, à partir de ce qu'on m'a transmis, mais aussi de ce que j'ai pas reçu, les aider eux. Alors il y a cela, c'est une de mes vies, bien sûr, à laquelle je tiens beaucoup. Et puis j'écris par nécessité, et dans ces moments-là, même si bien évidemment... mon écriture se nourrit de l'ensemble du corpus psychanalytique que j'ai lu. J'essaye aussi de m'en affranchir.
Il y a de temps en temps des références à Freud ou Lacan.
Oui, hein, mais justement,
par exemple, mais ça reste quand même assez général.
Oui, mais justement, par exemple, Richard, c'est marrant parce que Richard, qui est autrichien,
oui,
qui vient du pays de Sigmund Freud, à un moment donné, il dit à Sarah, mais arrête, les Autrichiens n'aiment pas du tout psychologiser. Voilà, arrêtons de chercher des causes à tout et n'importe quoi, et vivons simplement. Je ne sais pas exactement pourquoi je t'aime, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause l'amour au fond, pourquoi cet amour immense a surgi en moi, mais je constate que je t'aime éperdument.
Cette émission est une rediffusion. Alors, il y a les images qu'on évoquait à l'instant, Sarah Chiche, et puis il y a aussi les images d'actualité, parce que Les Enténébrés, c'est vraiment un roman qui fait référence à l'histoire du XXe siècle, mais c'est aussi un roman ancré dans son époque, ancré dans l'actualité. Ça commence d'ailleurs par un développement sur le climat, ça se termine aussi d'ailleurs par un développement sur le climat. Vous évoquez les attentats terroristes, vous évoquez ce qu'on a appelé le printemps arabe, vous évoquez le génocide au Rwanda, en Bosnie, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi fallait-il à ce point parler de la vie du monde au moment de l'écriture du livre, mais la vie du monde qui n'a pas tellement changé d'ailleurs aujourd'hui?
Oui, à vous écouter, je me demande si ce n'est pas une sorte de pot-pourri mélancolique de tous les déchets, les images dont nous sommes submergés. C'est vrai que le roman s'ouvre à l'été 2010. Ça commence par un soleil trop vif, hein, et ça m'intéressait de voir comment le réchauffement climatique a entraîné des famines, lesquelles famines ont entraîné des émeutes, les émeutes qui ont entraîné la répression d'occupation ou des guerres, par exemple le printemps arabe ou la guerre en Syrie, comment ces guerres ont entraîné l'exil des plus démunis et comment l'exil des plus démunis aboutit dans plusieurs pays, dont la France, au racisme d'État, au mépris de classe et à la reproduction d'inégalités absolument ignobles.
Pourquoi racisme d'État ? C'est une expression extrêmement forte, racisme d'État. La France est un État raciste ?
Alors, regardez ce qui se passe en ce moment. Comment la violence policière est légitimée de façon la plus abjecte. Regardez ces vidéos des lycéens.
Quel est le rapport avec le racisme ?
Mais regardez les lycéens de Mantes-la-Jolie, hein, où il y en a plein qui sont musulmans. On a vu les vidéos, avant les fêtes de Noël en décembre. Voilà une classe bien sage, hein, avec les flics qui les tiennent comme ça en joue, hein. Voilà. Et ces images absolument odieuses, je trouve qu'elles rappellent, c'est-à-dire des heures très très sombres, hein, des années 40.
Sérieusement faire ce parallèle-là, parce que c'est vraiment très grave ce que vous dites là.
Écoutez, moi je le fais, je trouve qu'il y avait une ambiance salaud de Pasolini, le film salaud de Pasolini, hein, absolument abject dans ces, même si on nous dira que si ces gamins ont été agenouillés comme ça, c'est parce que auparavant ils avaient fait flamber quelques voitures.
Oui.
Alors ça pose la question justement des victimes.
Les policiers disent aussi que c'est une méthode assez classique de maintien de l'ordre, qu'il n'y avait pas de volonté d'humilier derrière cette scène.
Bon, alors ça pose une question, la question des victimes et des bourreaux, la question de l'instrumentalisation des images. Bon, il est vrai que je prends position de façon assez tranchée dans mon livre, et ici même, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ma position, elle n'engage que moi.
On sent en tout cas un engagement très fort de votre part en faveur de l'accueil des migrants, des réfugiés. Vous pensez que c'est une honte ? La façon dont les réfugiés sont accueillis aujourd'hui en France.
Ah oui, écoutez.
Malgré le travail des associations, malgré le travail de tous ces gens de terrain.
Mais il y a des gens sur le terrain qui font un travail absolument remarquable. Hein. Je pense notamment à Judith Akien, ce qu'elle avait fait. L'école TOT qu'elle avait montée pour enseigner le français aux personnes réfugiées. Maintenant, elle est dans une autre association dont le nom m'échappe. Et même des gens qui sont tout à fait anonymes, inconnus, mais que je vois, hein, du côté du boulevard Barbès ou de la porte de la chapelle, et qui vont apporter des vêtements aux enfants, aux femmes, qui vont leur donner à manger. Il y a vraiment des individus qui ont du cœur, mais que fait-on, que fait l'État ? Enfin, quand je vois la façon dont la construction d'un centre d'hébergement pour réfugiés à la Lisière entre le 16e arrondissement et Boulogne a été accueillie par les riverains qui avaient peur que les grands méchants réfugiés s'attaquent à leurs chiens ou à leurs enfants, je trouve ça tout à fait indigne. Maintenant, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des choses absolument extraordinaires qui sont faites.
On a un peu l'impression, puisqu'on évoquait justement à la fois le sort de cette histoire familiale, hein, qui est vraiment le cœur du livre, et en même temps ce cycle infernal que vous décriviez tout à l'heure entre le changement climatique et les différents aléas politiques, que le monde est en train de courir à sa perte, qu'il y a une forme de folie comme ça, de cycle infernal. C'est, je vois pas d'autre expression. C'est ça, finalement, le sujet de votre livre.
Il y a un cycle. J'ai été un peu virulente à l'instant, mais c'est dans l'idée de montrer aussi comment ce cycle infernal, ce cercle s'affole de plus en plus, comment le mal entraîne le mal, comment d'une génération à l'autre, les choses se reproduisent, comment les abominations commises aujourd'hui font écho à d'autres abominations conduites pendant l'indépendance, la décolonisation en Afrique, lesquelles font aussi écho au traitement des corps pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui avec la question du réchauffement climatique, c'est qu'on a la certitude qu'on va lentement vers la fin.
Merci beaucoup, Sarah Chiche. Votre livre Les Enténébrés, je le rappelle, est paru aux éditions du Seuil.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction la Lituanie avant de se quitter, plus précisément la deuxième ville de la petite République balte. C'est là-bas, à Kaunas, qu'est né le philosophe Emmanuel Levinas, décédé en 1995. Un centre qui lui est dédié a été inauguré récemment dans l'ancien bâtiment de la Légation française, Kaunas ayant été, entre les deux guerres mondiales, la capitale de la Lituanie. Reportage de Marielle Vituro.
Dans la rue Poudvinskio, tous les bâtiments, le charme moderniste des années 30, le numéro 14, l'ancien bâtiment de la Légation française, conçu comme une maison d'habitation par Landsbergis Žemkalnis, le plus grand architecte lituanien de l'époque, ne fait pas exception. C'est là que le centre dédié à l'étude des philosophes français s'installera, juste à côté du square Levinas. Viktoras Parmetievas, le directeur du centre, fait le tour du propriétaire. À l'intérieur, le bel escalier en bois est encore d'origine.
En 1931, la France a loué ce bâtiment et il est devenu la Légation de France. Ils l'ont occupé jusqu'à l'arrivée des Soviétiques en 1940. Quand Levinas a été naturalisé français, il a dû recevoir son passeport ici.
Le futur centre se trouve à deux pas de l'allée de la Liberté, la grande allée piétonne de Kaunas. Là où le père d'Emmanuel Levinas possédait sa petite librairie-papeterie. Un peu plus loin, non loin du fleuve, le Niemen, dans l'ancienne rue de la prison, le philosophe a grandi au numéro 6, un quartier où les juifs aisés s'installent à la fin du 19e siècle. Bonjour. Rapa Geraïté, spécialiste des religions, est parti sur les traces de Levinas à Kaunas.
J'ai trouvé la famille Levinas parmi les locataires. Jusqu'à l'abolition du servage en 1861, dans l'Empire russe, seuls les Juifs et les Russes étaient libres de leur résidence et pouvaient s'y installer. Et dans ce quartier central de Kaunas, de nombreux Juifs ont commencé à construire des immeubles.
Quand la famille du philosophe revient d'exil après la Première Guerre mondiale, la Lituanie est devenue un pays indépendant. Kaunas en est la capitale. Et quand Levinas revient dans sa ville pendant ses vacances universitaires dans les années 20 et 30, sa ville est transformée. Aušra Pažėraitė.
Pendant ces années, le premier établissement d'enseignement supérieur a été créé. Il est devenu ensuite l'université Vytautas. Et très rapidement, la vie culturelle et intellectuelle a pris son envol.
En 2006, pour le centenaire de sa naissance, une plaque est apposée sur la maison natale de Levinas. Le processus de redécouverte du philosophe qui a ses racines à Kaunas est enclenché. Viktoras Barmetievas.
Même à l'époque soviétique, les philosophes en Lituanie connaissaient Levinas. Un extrait de son éthique a été traduit et publié. À l'indépendance, l'intérêt s'est accru. La culture juive de Lituanie est dans une phase de redécouverte et naturellement, on redécouvre les personnalités issues de cette culture.
La création de ce centre est une sorte de concours de circonstances. Les bonnes personnes qui parlent de leur projet aux bons interlocuteurs, une unité de police qui quitte le bâtiment historique, Remigius Jalunas, recteur de l'université de médecine de Kaunas, très francophile, a décidé d'investir dans ce centre.
La maison du consul japonais Sugihara, qui a sauvé des milliers de juifs, attire aujourd'hui tout autant de touristes japonais à Kaunas. Auparavant, la ville leur était totalement inconnue. L'Université des sciences de la santé, en créant le centre Emmanuel Levinas, peut certainement répéter ce succès. Kaunas aura un nouveau pôle d'attraction.
En 2022, Kaunas sera capitale culturelle européenne. Elle connaît un renouveau artistique sans précédent. L'un des points forts du programme est justement la mise en valeur de l'urbanisme et de l'architecture de la ville. La concentration d'habitations modernistes est tout à fait singulière. Kaunas veut d'ailleurs les faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Reportage de Marielle Vituro dans VMDN. Dans une poignée de secondes, l'info, on se retrouve lundi pour parler littérature avec la romancière Marie Nimier pour les confidences qui sortent chez Gallimard et vous m'en direz des nouvelles.